Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Un des sujets qui passionne le peuple, les vidanges. Écoute, il faut voir les réactions ce matin. Alors, Montréal défend sa décision, et là on parle spécifiquement de Hochelaga-Maisonneuve, merci, là, de faire la collecte des ordures aux deux semaines pour ce qui est du compost et du recyclage. Ben, ce sera toutes les semaines. Alors, est-ce que c'est réaliste de procéder comme ça, Luc?
C'est une recette qui a été appliquée dans des dizaines et des dizaines de villes à travers l'Amérique du Nord. Et au Québec. Mais est-ce que ça va marcher à Hochelaga-Maisonneuve? La question est posée. Parce que, bon, d'abord, c'est courageux de la part de Pierre Lassemblée d'avoir levé la main, puis le maire de Hochelaga-Maisonneuve d'avoir levé la main, puis dire, ben moi, je vais le faire. Moi, je pense que ça s'applique très bien dans des quartiers comme Mercier, une partie d'Hochelaga-Maisonneuve, Mercier, où tu as des bungalows, donc des grosses poubelles à l'arrière, etc. Mais dans les quartiers de triplex, la propreté est très, très difficile à maintenir pour toutes sortes de raisons. Premièrement, les logements sont petits. Et puis, ben, les logements sont petits, puis il y en a des fois des très petits, des petits 3,5, là. Si tu rates les vidanges, là, ça arrive que tu rates les vidanges, là, ben, c'est un mois de vidange chez où, là. Il y a des logements sans balcon. La plupart des conciergeries à Montréal, contrairement aux conciergeries dans presque toutes les villes européennes, n'ont pas de locaux à ordures.
C'est vrai, ça.
Fait que là, t'es pogné que tu dois les amener dehors, mais eux, par exemple, à Paris, là, il y a un local à ordures. Tu t'oublies ton jour de vidange, tu le mets dans le local à ordures, pas à Montréal, sauf pour les très grosses conciergeries. Alors, toutes sortes de raisons qui font que... Et aussi, il y a des choses particulières. En été, tu pars en vacances, tu vas faire quoi avec tes vidanges? Si t'es pas... Tu vas les mettre devant la maison, là, c'est pas vrai que tu vas les laisser dans la maison, tu vas revenir avoir des mouches partout, là. Noël, on a beaucoup de vidanges. Et surtout, la question d'imputabilité. Tu peux pas très difficilement imputer une contravention à une poubelle qui est devant un triplex parce que tu sais pas auquel des trois logements elle s'applique. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font que c'est difficile dans un quartier de triplex, qui a une réputation d'ailleurs particulière avec la propreté Hochelaga-Maisonneuve. Ceci étant dit, sur le principe de base, qu'est-ce que les Québécois comprennent pas? Faut composter. Il y a 33% des Québécois qui compostent là où ça se passe bien. Dans les endroits où ça se passe mal, c'est 10%. Le compost, c'est la solution à la propreté. Et c'est le seul truc qui marche. Parce que, tu sais, le recyclage, je l'ai dit mille fois, là, le recyclage du carton marche bien, puis c'est tout. Et donc, le compostage, c'est 100% utilisé. Ça va se transformer en terre. On va l'utiliser. Ça va... empêcher le problème d'écureuil qui mange tes vidanges. Ça va empêcher le problème d'odeur de tes vidanges. Ça marche. Faites-le, Simonac.
C'est un réel défi pour la ville de Montréal. Hein, mais la ville, là, elle se dit, il faut changer les habitudes des Montréalais pour leur permettre de récupérer davantage, de faire davantage dans les résidus alimentaires. Le projet pilote qui a été mené dans Hochelaga-Maisonneuve, merci Hochelaga-Maisonneuve, a conclu que pour le secteur Mercier-Est, 15% le volume de résidus alimentaires valorisés a augmenté de 15%, mais il a diminué de près de 5% dans le reste de l'arrondissement. 15% de plus de résidus alimentaires, ça veut dire moins d'ordures dans tes poubelles. Mais est-ce que c'est suffisamment concluant pour procéder à une petite révolution? Je comprends qu'il y a énormément de résistance, puis tu as très bien illustré, Luc, de façon très concrète à quoi la ville est confrontée. Mais il y a quand même, je comprends Montréal, puis ce que tu l'as dit, qu'est-ce qu'on comprend pas, mais il faut se résigner, en fait. Ça coûte de plus en plus cher à enfouir. À Montréal, là, 48% de tous les déchets qui sont produits à Montréal sont enfouis à Terrebonne, et le reste sur le territoire, et un peu même à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Pour vous dire, là, les Montréalais, puis c'est sûr que Montréal, c'est unique au Québec, là, mais à Montréal, là, toute catégorie d'ordures confondues, on produit énormément de déchets. En 2020, chaque citoyen produisait 3 quarts de tonne de déchets. 758 kg par année. Et en 2022, seulement 50 kg par personne au compost dans le bac brun. Fait qu'imaginez là, le chemin qu'on a à faire de passer du bac gris jusqu'au bac brun, il est colossal, colossal. Montréal a énormément d'ambition. Mais à un moment donné, c'est comme, on fait quoi? Puis en passant, il faut dire que le site de Terrebonne n'a plus de permis à partir de 2029. On ne sait pas si le permis va être renouvelé, mais on pose la question, dans le fond, à tous les auditeurs qui sont à l'écoute, Paul et Luc, est-ce que vous préférez continuer de payer de plus en plus cher votre facture, votre compte de taxe pour enfouir vos déchets, ou vous êtes prêt à faire un effort pour éventuellement diminuer cette facture liée à la collecte des ordures et contribuer à la réduction des GES? Parce que les GES, je regrette, c'est pas seulement mettre des voitures électriques sur la route, c'est aussi faire son effort pour ce qui est de la collecte des ordures. Quand je dis Montréal a de l'ambition, là, ils veulent interdire aussi. Là, on est passé par les plastiques, on s'est attaqué au fameux Publisac. Là, on veut la prochaine étape, c'est interdire les bouteilles d'eau à usage unique. Mais soyez assurés qu'un jour, on va vivre dans un monde où la collecte des ordures va se faire seulement peut-être deux fois par mois, là.
Ah ben ça, c'est clair. Et elle va être facturée aussi. Mais le problème...
Elle est déjà facturée, la collecte des ordures,
mon cher. Oui, mais elle a facturé considérablement.
Sur ton compte de taxe,
au poids. Au poids, oui.
Ben, c'est Beaconsfield qui fait ça.
Beaconsfield,
oui. Oui.
Mais justement, moi, je pense que, tu sais, il y a des domaines pour lesquels le bungalow est vraiment défavorisé pour l'environnement. C'est plus gros, c'est plus long, c'est plus lourd, plus difficile à chauffer, plus d'espace utilisé, driveway, etc. Des fois, une entrée de garage, deux entrées de garage, des fois, beaucoup d'asphalte, etc. Le bungalow nuit beaucoup à l'environnement plus que le triplex. Il y a un domaine dans lequel le bungalow peut mieux faire que le triplex, c'est les ordures. Parce que tu as de la place, parce que tu peux même composter à l'arrière tes résidus verts, parce que tu peux entreposer dans une grande poubelle. Et donc, il faut commencer par ces quartiers-là. Le problème, c'est que dans ces quartiers-là, la sensibilité est moins grande que dans les quartiers de triplex, parce que dans les quartiers de triplex, tu as plus de jeunes, tu as plus de personnes qui sont à l'université, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Hochelaga-Maisonneuve. Mais c'est Anjou qu'il fallait choisir, aux Rivières-des-Prairies ou Pierrefonds.
Mais moi, je l'ai vécu ce régime-là, là, aux deux semaines. La plupart du temps, ce n'est pas un enjeu. Là où c'est un enjeu, puis à l'époque, il n'y avait pas de compost, il faut dire, là, mais c'est des périodes très précises dans l'année. Exemple, période de déménagement, période de Noël, et aussi l'été. Veux pas, là, l'été, t'as beau dire, mais il y a quand même... puis comme tu dis, le voisin là manque... là, tu gardes ça pendant un mois, puis t'es dans des maisons. Là. Moi, j'étais dans une maison, j'avais un garage... Ça pouvait se gérer.
Ouais, ouais. Non, mais 3,5, là.
Ben, oublie ça. Puis Bénédicte, elle habite dans Hochelaga, puis elle dit, écoute, il n'y a pas d'espace pour garder ça à l'extérieur.
Non.
Tu sais, il n'y a pas de cours, il n'y a pas...
Mais il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, notamment dans le Mylène. Comité acidique, des grosses familles, et des grosses familles. Et beaucoup de monde dans la maison. Pas possibilité de garder les déchets dans la maison. Alors là, ils mettaient leurs ordures sur le terrain en avant. Et là, tous les voisins se plaignent, là, parce qu'il y a des accumulations, etc. Donc, c'est difficile dans un quartier serré. Là. C'est difficile dans un quartier dense, mais on n'a pas le choix. Nathalie, tu le disais, tu parlais du dépotoir. Là, non. Hey, comment ça se fait qu'au Québec, on est l'endroit en Amérique du Nord qui produit le plus de déchets par habitant? Je comprends pas. Moi, il y a quelque chose dans la psychologie que je comprends pas.
Ben, des fois, c'est pas de notre faute, dans le sens où tu commandes en ligne, là.
Ouais, oui.
Moi, j'ai reçu un bidule l'autre
jour. C'est l'enfer.
Écoute, sérieusement, là, carton, styrofoam, puis tout ça, le... Mais tu disais, bon, le styrofoam, ça va pas au recyclage, ça. Fait que je fais quoi à part le carton? Ben, là, tu me mets dans les poubelles conventionnelles. Je veux dire, tu sais pas quoi. Puis, sérieusement, là, mais écoute, c'est une boîte dans une boîte dans une boîte.
Ouais, mais ça fait combien d'années qu'on dit ça? Ça fait combien d'années qu'on dénonce le suremballage? Ouais. Voilà. Mais vous, ce que vous compostez, Paul, est-ce que tu compostes, toi, là?
Moi,
qu'est-ce
je viens
que tu
d'avoir le droit.
Ah oui, parce que
c'est un immeuble, plus, c'est ça. Plus, ouais. Ça vient à peine de commencer.
Ouais. Mais regarde, moi, je voulais pas composter parce que ça pue, parce que ci, parce que ça. Puis une fois, j'ai pogné des verres blancs, puis je les ai pognés en poubelle, remarque. Non, ça me dégoûtait. Puis là, finalement, j'ai dit, je vais le faire. Et ce que ça fait, c'est que la poubelle devient propre. La poubelle est propre. Tu sais, y a aucune odeur. Tu peux la laisser dans la cuisine autant que tu veux. C'est de la matière inerte qui est dedans. Donc, le compost, c'est lui que tu dois gérer. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant le compost. Je voulais vous parler des impacts qui arrivent dans un quartier quand tu mets des règles sévères, tout ce qui se passe. D'abord, il y a plein de gens qui vont aller porter leurs poubelles dans le parc. Ça, c'est la nature humaine. Là,
oui,
cours sur la nature
oui.
humaine. Ou alors, au coin de la rue, devant la caisse populaire. Tout le temps.
Dans un conteneur d'un petit centre commercial.
Oui,
oui, c'est ça.
On a eu un cas la semaine passée.
Ah, oui, absolument.
Ben, là, c'est rendu qu'ils mettent des cadenas, là, parce qu'il y en a qui ouvrent ça. Puis
partout, maintenant, il y a des cadenas. Ou chez le voisin. Parce que s'il y a des pénalités, c'est la... puis si tu donnes des grosses pénalités, puis tu finis par pogner la personne, mais souvent, tu dis, bon, c'est... la dame, elle vient, puis elle a, c'est une dame âgée, puis elle avait oublié sortir des poubelles, puis là, elle les a sorties le mauvais jour, puis là, tu lui donnes une contravention de 150$. T'as pas envie de faire ça.
T'as pas envie de faire ça.
Fait que c'est pas facile à gérer. Et moi, je suis arrivé à une conclusion qui déplaît beaucoup, puis qui nécessite discussion. Ma conclusion, c'est, dans les quartiers denses, la propreté devrait être prioritaire sur l'écologie.
C'est-à-dire,
ramasse les vidanges, ramasse-les, même si, du point de vue écologique, il faudrait mettre des pressions sur les citoyens, puis il faudrait les laisser devant chez eux, puis leur dire, gars, t'en as sorti trop, t'as pas le compris. Moi, je dis, tu ramasses.
Ce que tu dis, c'est une fois par semaine, plutôt que deux fois par...
Tu ramasses
tout le temps, je comprends.
Tu laisses pas le quartier sale. Tu laisses pas le quartier sale parce que, écologiquement, les gains du triplex sont infiniment plus élevés que si les gens déménagent à campagne. Fait que, arrange-toi que des gens restent en ville. Arrange-toi que ça soit propre, ça soit vert, ça soit calme. Puis là, tu vas atteindre des objectifs écologiques plus importants que si tu t'es destiné sur les poubelles.
Dis-moi, pourquoi t'as quitté la ville de Montréal, toi? T'as tellement des bonnes solutions, mon cher Luc.
Parce que je vais être ministre de la Justice, on me l'a dit hier. Oui.
Non, je pensais que c'était l'environnement.
L'environnement. On y va, Nathalie, on y va.
Un sommet Guilbeault-Ferrandez.
tabouret. Mais pas armé, membre.
Non, il y aurait une chicane fédérale provinciale. On s'arrête pour la pause, puis au retour, on va parler d'un rêve. On a des rêves à aller nordiques à Québec, un TGV. Il n'y a rien qui se fait, mais on rêve. C'est pas grave.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, est-ce que c'est réaliste d'avoir un TGV au Québec? C'est le genre de débat qui revient de temps à autre. Tu sais, en se disant, est-ce qu'on pourrait pas avoir cette liaison rapide? Alors, est-ce qu'on rêve ou c'est, réaliste? Nathalie.
Non, on ne rêve pas, Luc. Puis j'ai envie de te dire, on peut rêver, mais sans porter des lunettes roses. Et d'autres ont rêvé avant nous. En 1989, Robert Bourassa, qui était premier ministre, et son homologue de l'Ontario, David Peterson, ont mandaté un groupe de travail pour mesurer la préfaçabilité d'un train à grande vitesse entre le Québec et l'Ontario. Et c'était la première démarche que deux provinces ont faite pour mesurer la faisabilité d'un train comme celui-là. Et à l'époque, Bombardier et ABB avait levé la main pour dire « Nous, ça nous intéresse. » Et le coût qui était envisagé à l'époque pour un train qui aurait circulé à 300 km/h, c'était un peu plus de 7 milliards de dollars. 34 ans plus tard, il faudrait voir qu'est-ce que ça représente. Mais ce projet, il n'a pas vu le jour pour toutes sortes de considérants politiques dans un premier temps. Dans un second temps, probablement le lobby de l'industrie aéronautique, entre autres l'industrie de l'aviation, qui était opposée à un projet comme celui-là. Personnellement, c'est le projet du 21e siècle. En fait, c'est un projet qui fait rêver, comme le chemin de fer nous a fait rêver au 19e siècle, que serait le Canada sans son chemin de fer? Et lorsque je dis que c'est un projet du 21e siècle, au moment où on cherche urgemment à réduire les gaz à effet de serre, c'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans cette lignée de réduire le nombre de voitures des routes vers le train. Et le Canada est le seul pays du G7, peut-être probablement du G20, à ne pas avoir de train à grande vitesse sur son territoire. Et j'ajouterais, je ne peux pas concevoir qu'en 2050, qu'on fasse la distance entre Toronto-Montréal ou Québec-Montréal en train de via 4 wagons qui roulent à 200 km/h. Je ne peux pas concevoir ça qu'en 2050, on se retrouve dans la même situation qu'actuellement, étant entendu que c'est la préhistoire là, en matière de train ici au Québec et au Canada lorsqu'on se compare à d'autres juridictions sur la planète.
Luc? Bon, ben le TGV, la question c'est TGV ou TGF, là, le train à grande fréquence. Le train à grande fréquence, on dit qu'il coûterait autour de 16 milliards de dollars parce que on l'a pas à reconstruire les passages à niveau. On fait juste faire. Le problème, c'est on doit rajouter des éléments de voie ferrée parce que là, souvent, il faut qu'ils s'arrêtent pour laisser passer des trains de marchandises. Comme par exemple, quand tu vas à Québec, c'est 4 heures et même plus, 4 heures et demie moins rapide que la voiture parce qu'ils s'arrêtent 3 fois 20 minutes dans le champ. Puis là, tu regardes les mouches, puis elles attendent, puis ça n'a pas d'ordre, ça n'a aucun mot du bon sens. Là, il y aurait au moins ça serait réglé. Mais le jour de sa mise en œuvre, là, on s'entend, on est dans les discussions, là. Les discussions, ça va durer 12 ans. Après ça, la conception, la construction, mettons qu'il va être fait en 2030, OK? Fait que, je dis là 2030, il va être 2030.
Optimiste, mon Dieu.
Ouais, c'est ça, fin des années 30. Donc, quand on va le mettre en service, il va être totalement passé date, là. Je veux dire, c'est une carriole, là. TGV, lui, coûte pas 30 % de plus comme a prétendu, 20 à 30 % de plus comme a prétendu Alstom. Ça, c'est le matériel roulant qui coûte 20 à 30 % de plus. Le TGV, il y a les caractéristiques suivantes. Il faut une voie réservée tout le long. Un. Deux, il faut des clôtures tout le long. Parce que ça va tellement vite que tu passes devant, ben une vache, mettons, passe devant, ben il pulvérise une moufette, là, mais une vache, mettons, ou un passant, n'importe quoi, une voiture, ça sera un accident terrible. Donc, ça prend des clôtures tout le long. Des voies dédiées, faut percer un autre tunnel sous le Mont-Royal, parce qu'il faut qu'il rentre par là. Les courbes sont très accentuées, sont très larges, très ouvertes, parce que ça va excessivement vite. T'sais, on dit qu'il va à 300 km/h, mais il peut aller beaucoup, beaucoup plus vite que 300 km/h. Les vitesses les plus rapides mesurées sur les lignes droites, c'est 600 km/h, mais c'est pas en service. Ils ont pas fait ça avec du monde dedans. Toujours est-il que c'est très, 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 très cher. Mais le TGF ne change pas la part modale entre la voiture, l'avion puis le train. Ça va juste être plus confortable de prendre le train. Il y a personne qui va dire, moi, je prends pas l'avion pour être à Toronto, là. Le TGV change totalement la donne. Ça va te prendre moins de 3 heures pour aller à Toronto. Ça va te prendre 1 heure et quart pour aller à Québec. Ça va te prendre 1 heure et quart pour aller à Ottawa. Tu viens de relier Québec, Montréal, Ottawa, Toronto à la vitesse de l'éclair. Ça veut dire que, personnellement, moi, j'irais très souvent à Québec. J'irais très souvent passer une fin de semaine à Québec. En 1 heure et quart, t'es rendu centre-ville à centre-ville. Ouais, il y a plein de gens de Toronto qui iraient à Québec, qui diraient, on s'en va passer la fin de semaine à Québec. Ça change complètement la donne. Et mon argument, Nathalie, tu n'aimeras pas, si Lévis peut se payer un tunnel à 10 milliards, on peut-tu s'entendre que le combiné Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Windsor peut se payer un train à 50 milliards?
Ouais, ben ça c'est un autre sujet puis on y reviendra là, mais le train à grande fréquence, c'est un prix de consolation. Et tu as dit une chose importante, ça va coûter très cher. Il faut que les élus évitent de confondre prix et rentabilité et c'est ce qui a fait que dans le passé, on n'est jamais allé de l'avant. La rentabilité c'est une chose, le prix c'est autre chose. L'erreur qu'ont fait les élus dans le passé, c'est focaliser davantage sur le prix alors que sur le plan de la rentabilité, c'est extraordinaire à quel point on peut transformer là on parle d'un corridor qui ont Windsor, Montréal, un corridor de 20 millions de personnes qui offre des possibilités extraordinaires parce que ce qui a été démontré dans l'étude de 89, dans le groupe de travail de 89, qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est que dans tous les endroits où on a construit un TGF, en Europe, en Asie, également aux États-Unis, c'est que ça a eu des répercussions économiques extraordinaires. Tu viens de le dire, Luc. Moi, je viendrai à Québec plus souvent. Moi, j'irai peut-être à Toronto de temps en temps voir un match des Blue Jays ou un match des Maple Leafs. Tu comprends? Alors, ça va offrir une multitude de possibilités. Ce que ça prend de la part de nos élus, c'est de la vision. On est habitué, les élus sont habitués de composer avec un mandat de 4 ans. Là, il faut faire un exercice collectivement et se projeter dans le temps. À quoi va ressembler notre réseau de transport qui est avant tout, parce que le TGF, c'est un moyen de transport, mais c'est avant tout un moyen de communication. Comment on va se projeter dans le temps, puis plonger le Canada dans la modernité pour ce qui est de ses transports. C'est épouvantable. Écoute, essaie d'aller à Victoriaville à partir de Montréal en autobus, c'est impossible. Moi, si je prends le train de Québec ou de Montréal pour la Gaspé, bonne chance. Tu peux pas prendre le bus à Montréal si t'as pas d'argent dans tes poches et si t'as pas la carte Opus. Oubliez ça, c'est terminé. Alors, tout ça pour dire que je sais que dans la population, les gens vont se dire, ben voyons donc, Nathalie, vous parlez d'un train à grande vitesse, alors que il y a des éléments sur le plan des transports qui sont basiques, là, tu sais, qui sont incomplets, il y a des réseaux qui ne sont pas complétés. tout à fait d'accord avec ça. On pourrait peut-être commencer à régler ce qu'on a, de corriger les erreurs qui sont manifestes et évidentes. Mais il faut pas s'empêcher de rêver. Et Paul, je regrette, mais si M. Bourassa avait attendu le financement puis s'est arrêté au prix lorsqu'il a construit la Baie James, on n'aurait pas eu de Baie James aujourd'hui, vous comprenez? Mmh. Il faut vraiment que les élus s'incarnent dans une vision. Et je suis contente de t'entendre, Luc, parce que pour un écologiste comme toi, c'est le projet de rêve,
mais
tu comprends?
Mais il rêve d'aller à Québec, tout court.
je peux te donner un livre en revenant, si tu veux,
mais quiconque
de temps en temps
a vécu l'expérience du TGV, j'avoue que c'est quelque chose, là.
Hey, tu vas à 300 km/h, puis tu dis, ah, ils m'ont menti, on va pas à 300 km/h, là, si on n'avance pas, Simonac. Mais finalement, tu regardes les maisons qui passent, elles, ils passent à 300 km/h. C'est que tu as l'impression que ça bouge pas tellement que c'est calme.
Non, mais c'est parce que l'argument, c'est toujours la même. Est-ce qu'on a la densité de population pour supporter
bon,
ça?
Bon, mais Montréal, Toronto.
Oui. Je pense que oui. Là.
Pas super. Mais tu sais,
20 millions de personnes dans le corridor.
Est-ce qui est arrivé, le TGV, orange, le premier, là, Montréal, Paris-Marseille, a rapidement été suivi. Au début, ils pensaient pas que ça allait être suivi par d'autres lignes. Moi, je suis persuadé que si tu fais, puis après ça, il y en a eu énormément, là, maintenant, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, il y en a partout. Mais moi, je suis persuadé que tu fais la ligne Québec-Windsor, puis pendant même que tu es en train de la faire, le projet Toronto-New York ou Toronto-Montréal-New York va se faire aussi. Là.
Ah,
et là,
tout à coup, tu as
New York, Boston, Montréal, Québec, Toronto. Et là, tu commences à avoir un réseau qui n'a rien en termes de qualité de ces villes-là et de densité de ces villes-là et d'intérêt de ces villes-là, n'a rien à envier aux villes européennes.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.